Nous allons maintenant écouter notre deuxième orateur de l'après-midi, Bertrand Westphal, professeur à l'Université de Limoges, dont les travaux sur la géocritique ont fait date et qui va nous parler aujourd'hui de son dernier ouvrage, « La cage des méridiens, la littérature et l'art contemporain face à la globalisation », qui est paru en 2016.
Très bien. Je vous remercie de cette présentation et je remercie Antoine Compagnon de son invitation, que j'apprécie énormément. Donc, il n'a pas encore été trop question de la vaste échelle du monde, je m'y risque, en posant une question redoutable, toute bête, mais à laquelle il est difficile justement de répondre. Quelque chose a dû se passer récemment, mais quoi ? Puisque nous consacrons cette journée à un état des lieux de la théorie littéraire, je serais tenté de répondre, hélas, et on y revient, le décès de Gérard Genette, grand théoricien s'il en est, qui est intervenu le 11 courant. Il n'était pas dans mes intentions d'évoquer l'œuvre de Genette, je me borne simplement à citer le vibrant hommage que Patrick Kechichian a rendu au défunt dans le quotidien Libération, et je le cite, « Les formes rigides ou rigidifiées de la théorie littéraire dans la deuxième partie du XXe siècle, Genette, sans les rejeter, les vivifier avec un art et une inspiration qui étaient ceux d'un écrivain à part entière. Il manifestait la part créative sans laquelle les études littéraires et la critique perdent leur âme et leur vigueur. » Fin de la citation. L'avis, je le partage complètement. Il convient en effet de faire trésor de cette leçon. Gérard Genette a su être théoricien et écrivain. Voilà qui est dit. Mais hormis le décès de Genette, que s'est-il passé ? L'interrogation laisse perplexe, surtout si l'on se propose de quitter le factuel, et en l'occurrence le tristement factuel, pour aborder les questions de périodisation si peu mesurables. Quoi ? Nous demandions-nous. Il est difficile de répondre. On soupçonne, on suppute, on pense. Au fond, on n'en sait trop rien. Pourtant, si quelque chose de crucial s'était produit ces dernières décennies, on s'en serait aperçu, n'est-ce pas ? Quoiqu'une réserve s'impose, car les innovations se détectent toujours avec un temps de retard. C'est le problème des périodes et des périodisations. Lorsqu'on y recourt sans modération, le terme de tournant est galvaudé. Quelque chose se serait passé, mais quand alors précisément ? Les gens sont obnubilés par leurs agendas, chaque journée comporte son événement historique, que d'histoire à la fin. En est-il une de décisive ? Alors il y aurait bien la fragmentation de la Pangée, la dérive des continents. Je signalais l'inéluctable temps de retard. Eh bien, il aura fallu attendre les années 1910 pour qu'Alfred Wegener, climatologue et géographe de son état, émette l'hypothèse de cette dérive première. Vraiment première. Que se serait-il passé d'autre ? L'entrée dans l'Anthropocène, sans doute. L'amorce d'une conquête de la planète et du vivant par l'être humain. Lorsqu'il pense global, Edgar Morin, dans sa grande sagesse, s'empresse d'invoquer une très longue durée qui, à l'aune de l'humain, équivaut quasiment à l'éternité. Mais on parlait de quelque chose de récent. Ce qualificatif ne s'applique guère aux premiers âges de l'Anthropocène. Deux événements liés à la géopolitique de notre planète sont survenus lors de ces dernières décennies, si traditionnellement ces deux-là. Donc, d'une part, la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et l'attentat contre le World Trade Center à Manhattan en septembre 2001. Dans l'intervalle, donc entre 1989 et 2001, quelque chose s'est produit, ou pour le moins s'est manifesté à l'évidence, à savoir le changement d'échelle de notre perception de la planète. Toujours plus, on s'est surpris à parler de mondialisation, un terme auquel je préfère celui de globalisation, qui est davantage à l'abri du souci d'exceptionnalisme culturel. Faisons un sort aux implications politiques de l'événement, écartons même toute réflexion sur les prémices de la globalisation. La première mondialisation est préhistorique, estime Edgar Morin. De fait, les hypothèses concernant les débuts du global s'étendent de l'inauguration de l'Anthropocène à l'extrême contemporain. Elles embrassent le Mare Nostrum des Romains, et comme l'a si bien montré Serge Grusinski, l'occupation espagnole des quatre parties du monde qui étreigne une pratique coloniale systématique en Europe, de la part des Européens. Le premier mouvement d'expansion globale se traduit en effet par une colonisation massive. Globaliser consiste à s'emparer de nouveaux territoires jusqu'à jeter un filet sur la planète, le remplir et en consommer la matière au détriment des peuples colonisés. Cette phase a duré aussi longtemps que la modernité, comme il a été noté de ci, de là, notamment par Walter Mignolo, argentin, qui écrit et enseigne aux États-Unis, à Duke. Plus près de nous, les paramètres ont été modifiés. L'accélération du global est allée de pair avec la décolonisation et l'affirmation du postcolonial. Pour la première fois depuis que le mouvement était enclenché, les puissances européennes, devenues occidentales entre-temps, cessaient de détenir le monopole de l'interprétation du monde et de son histoire. Tandis que la perception à très grande échelle de la planète se généralisait, les discours se diversifiaient. Par voie de conséquence, si la globalisation s'accélère, les points de vue sur le globe se multiplient. C'est peut-être là que se situe le tournant, le je ne sais quoi, qui fait que nous avons l'impression que les temps ont changé. Cela amène aussitôt deux remarques. Je viens de dire nous, alors que voici peu en Europe invoquer un nous ne suscitait aucune espèce de commentaire. Aujourd'hui, il paraît inconcevable de ne pas en questionner la nature. S'en abstenir participerait d'un réflexe ethnocentrique à la source des évidences nourri à la source des évidences trompeuses. La deuxième remarque sera tout aussi brève. Il y aurait de quoi écrire un livre à chaque fois. Comme le proclame le titre devenu célèbre ou fameux d'un essai de Dipesh Chakrabarty, on assiste depuis quelques décennies à un changement de perspective consistant à provincialiser l'Europe. Le titre du livre de Chakrabarty, Interloque, le contenu interpelle, s'agit pour l'auteur d'interroger la nature eurocentrée de l'historiographie mondiale et d'envisager des alternatives qui rendraient justice aux innombrables traditions extra-européennes. Bien entendu, la pensée historique reliée par l'école des études subalternes indiennes et stimulantes, bon, je peux 20 minutes, on ne va pas faire l'histoire du monde, le grand nom, c'est aussi Ranajit Guha, qui est du Bangladesh. La littérature est concernée au premier chef par tout ce qui vient d'être dit. En pointant tout à l'heure le laps de temps qui s'écoule entre 1989 et 2001, j'ai d'ailleurs quelque peu triché, quitte à choisir une date symbolique marquant l'entrée dans une nouvelle dimension de l'histoire et de la théorie littéraire, j'opterai volontiers pour celle des manifestations étudiantines qui se sont déroulées en janvier 87 sur le campus de Stanford, donc à Palo Alto. La revendication des étudiants semblait vraiment modeste, et choisir cette date-là comme quelque chose de symbolique, c'est peut-être même excessif, mais je n'en suis pas certain, parce qu'en réalité, elle était chargée de sens et lourde de conséquences. Alors de quoi s'agissait-il ? Ils exigeaient que soit révisée la liste des lectures qu'on leur imposait, que le corpus ne se cantonne pas à des écrivains, je les cite, « mâles, blancs et morts ». Ils obtinrent gain de cause. Les différents départements concernés modifièrent leur syllabi. On intégra le discours minoritaire, qu'il fût genré, sexuel, ethnique, ou dans le domaine spécifiquement littéraire, générique, la question des cultural studies, par exemple. On venait de remettre en cause les fondements d'un canon littéraire séculaire. Un conflit véhément secoua l'univers académique états-unien. On monta au créneau de toutes parts, les politiciens s'en étaient mêlés, les démocrates, les républicains, enfin c'était une affaire d'État. Alors par ailleurs, donc Harold Bloom prit le contre-pied, donc il y avait deux camps, des manifestants et des études postcoloniales, en publiant en 1994 The Western Canon, et cet essai, c'est extraordinaire, pour un essai universitaire sur un sujet aussi pointu que le canon, fut propulsé en tête des ventes aux États-Unis, New York Times, liste des best-sellers, c'est dire si le sujet était central. En France, ni Bloom, ni les nombreux pionniers de l'ouverture postcoloniale ne furent traduits. Personnellement, j'ai lu Bloom en italien à la fin des années 90, après que la traduction italienne était sortie. La question du canon littéraire était à peine esquissée. L'impact des post-colonial studies se révélait singulièrement faible dans un pays, le nôtre, caractérisé, qu'il l'admit ou non, par son passé colonial. On était toujours encore structuraliste, on condamnait le hors-texte, il fallut attendre le nouveau siècle pour que la situation se débloquât enfin. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. J'ai noté, curieusement, que l'année 2007 était l'année phare des traductions de Homi Bhabha, de plusieurs sommités des études postcoloniales et féministes. Voilà le terreau de la géocritique. Au départ, ce ne sont d'ailleurs pas les études postcoloniales, mais l'imagologie qui avait servi de levier. Restait à affiner l'examen de la multifocalisation, un croisement des points de vue sur des espaces, des lieux, et aussi le carrefour entre le fictionnel et le réel, réel considéré comme référent. À titre personnel, il m'aura fallu attendre 2005, puisqu'il s'agit de parler un petit peu de soi, 2005 et un séjour de 6 mois au Texas, pour m'initier au discours minoritaire états-unien dont j'ai rendu compte dans la géocritique, essai qui est paru chez Minuit en 2007. Une autre ligne théorique a traversé le panorama critique de la fin du siècle dernier, sans nécessairement croiser les études postcoloniales, c'est le distant reading, développé par Franco Moretti, dont le frère est très célèbre, c'est Nanni Moretti, donc à Columbia d'abord, à Stanford ensuite. Disposant de fonds appréciables et d'une équipe de collaborateurs, Moretti a inclus l'étude littéraire dans une optique planétaire, et là encore dans la longue durée. Il a par exemple enquêté sur la diffusion du roman policier ou des feuilletons dans Atlas du roman européen 1800-1900 qui est sorti en 1998. Tout autre que lui se serait borné à analyser la place du monstre, par exemple, dans les marges de la géographie familière pour conclure qu'il ne les quitte jamais. Moretti a fait mieux. Il s'est efforcé de localiser la marge fuyante entre les Pouilles de Horace Walpole et la Transylvanie de Bram Stoker, en passant par la Grèce de John Polidori, qui est le père de tous les vampires contemporains. Je cite juste l'exemple de la circulation du vampire littéraire à travers les marges de l'Europe. Donc en marge, mais pas au-delà, de manière à continuer à se faire peur, bien sûr. Donc la théorie de Moretti est fascinante, mais outre qu'elle suppose une batterie de moyens hors du commun, elle présente quelques défauts majeurs que les rivaux du comparatiste n'ont pas manqué de souligner. Moretti revendique la scientificité de postulats qu'il fonde ensuite sur un travail statistique, conformément aux principes des humanités numériques, qui sont très à la mode. Ces postulats s'appuient sur des intuitions qui ne sauraient être objectives, c'est tout le problème. Comment développer sur des bases statistiques des intuitions ? Ils sont sujets à l'erreur sans jamais être à l'abri de l'ornière ethnocentrique. Au demeurant, Moretti en convient tout à fait dans son dernier essai, justement intitulé « Distant Reading » de 2013. En tout état de cause, Moretti a contribué à déployer le domaine de l'étude littéraire à l'échelle du global selon une approche différente et complémentaire de celle des études postcoloniales. Il a trouvé son inspiration dans une autre théorie méconnue en France mais qui est très populaire de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la théorie des systèmes-monde, donc à droite, là, conceptualisée par Immanuel Wallerstein, un sociologue marxiste, et quelques autres, il n'était pas seul, dès le milieu des années 70. Toutefois, quand bien même l'ouverture se révèle globale, elle se referme sur un centre de décision dominant, donc euro-américain, pour Moretti comme pour Wallerstein. Une troisième ligne, je vais très très vite, 20 minutes, intersecte les deux précédentes, elle est tracée par la World Literature, qui aux États-Unis a largement empiété sur le domaine de la littérature comparée. Le chemin parcouru depuis la Weltliteratur romantique est considérable. Celle-ci était née au hasard d'une amicale et érudite conversation entre Goethe et Eckermann. Aujourd'hui, la World Literature répond à une série de questionnements lancés par une cohorte de chercheurs et de chercheuses. Comment apprécier la littérature et son histoire, ses diverses histoires, à l'aune du globe ? Comme je viens de le dire, la World Literature draine les foules. Il y a là David Damrosch, inlassable pourvoyeur d'essais et d'ouvrages collectifs sur le sujet, le collègue de Harvard est accessoirement directeur d'un World Literature Institute qui, je me permets de le souligner, est parfois oublieux du World placée au sud de l'équateur. Il y a là Gayatri Spivak, qui, après avoir annoncé la mort d'une discipline, la mienne, mais je ne suis pas rancunier, a abondé dans le sens du planétarisme littéraire. Il y a là aussi Emily Apter, auteur de Against World Literature, un ouvrage dont le titre est explicite et qui est riche en hypothèses stimulantes, notamment ce qui concerne la traduction. J'avoue que j'ai un faible pour le troisième, qui n'est pas nécessairement Against. C'est une formule choc. Pour compléter ce très rapide tour d'un horizon élargi, je me permets d'indiquer deux pistes récentes. La première concerne les Planetary Studies. Vous avez là-bas, dans le coin en bas à gauche, un des titres, qui est né de quelques paragraphes de Death of Discipline de Spivak, donc la fameuse discipline étant la littérature comparée, mais élaboré livre après livre par Christian Moraru et d'autres. Le second constat se situe à l'interface des études postcoloniales et de la World Literature dans maints essais remontant à ces trois ou quatre dernières années. Les études postcoloniales sont en train de se renouveler, évidemment, et sont en train de se greffer sur la World Literature avec des considérations qui sont très intéressantes et qui corrigent justement certains aspects des World Literature plus traditionnelles, celles développées à partir des années 90. Donc le survol est rapide, mais il débouche sur un constat irréfutable. L'échelle de l'analyse littéraire a été bouleversée pendant les dernières décennies. Il serait vain de vouloir dater avec précision le tournant, mais il loge dans une période qui s'étend, grosso modo, des années 80 aux années récentes. Il n'est pas achevé, peut-être ne le sera-t-il jamais d'ailleurs. Il intervient dans un contexte où le postmodernisme semble essoufflé et où peut-être le posthumanisme a pris le relais. Là, on est dans les nouvelles périodisations, je ne m'avance absolument pas puisque, je le répète, comme tout le monde sait, il faut un certain décalage pour prendre conscience des choses. Mais on est un petit peu obsédé par les périodisations, une espèce de multiplication, de succession hyper rapide des périodisations ces dernières décennies, ça aussi. Donc tout cela fait également écho au tournant spatial qui s'est produit au cours des années 90. Comme l'ont compris, Edward Soja, Frederick Jameson, Dennis Cosgrove et d'autres, dont Jean Echenoz, qui dès 1999 se disait écrivant, je le cite, des romans géographiques, en référence évidemment aux romans historiques. C'est dans cet environnement épistémologique que viennent s'insinuer mes travaux géocritiques et en particulier mon dernier essai, La cage des méridiens, un petit peu de publicité, paru donc aux éditions de Minuit en 2016. La genèse de tout livre se situe à la croisée d'une intuition informulée et d'une sollicitation, qui contribue à lui donner forme, et une fois de plus, on est dans la sérendipité. En ce qui me concerne, la cage des... J'ai sauté une phrase qui a son importance pour moi. Donc, pour l'incurable postmoderne que je suis, un petit peu nostalgique maintenant, puisque je viens de dire que le postmoderne est en train d'être dépassé, pour peu qu'il ait jamais existé, peut-être qu'un livre n'est rien d'autre que la transcription d'un écho. En ce qui concerne la cage des méridiens, les apports externes ont pour la plupart été iconographiques. Je répète, je suis comparatiste, donc proche, a priori, davantage du texte que de l'image. J'en relève spécifiquement deux. Donc, d'une part, et je montrerai l'œuvre tout de suite, United Dislocation in Peace, 2007, un triptyque de l'artiste britannique Bridget Williams. Et par ailleurs, deuxième, un commentaire de Rirkrit Tiravanija, thaïlandais, commentaire qu'il a livré au détour d'un entretien avec Hans Ulrich Obrist, qui est un grand critique d'art actuel. Donc, juste deux mots sur le triptyque de Bridget Williams, que voilà, qui d'habitude suscite beaucoup de commentaires, dont il appartient au spectateur ou à la spectatrice de disposer les volets. C'est moi qui classe, ce n'est pas Bridget Williams. Ce triptyque orchestre une dérive. Il ne s'agit pas de la dérive des continents, mais plutôt de celle des nations. La map-monde s'est fragmentée, comme la Pangée des tout débuts, et la silhouette de chacun des 200 États semble naviguer vers la périphérie avant de la rejoindre. La nouvelle map monde défie la norme car l'ensemble des différentes cartes nationales occupe désormais la circonférence d'un cercle dont le centre est vide. Le processus de périphérisation est parvenu à son terme. Il en va comme si l'archipel fameux de Glissant s'était désancré pour s'épanouir totalement dans sa logique centrifuge. À vrai dire, comme d'aucuns le font remarquer à juste titre, l'action n'est pas nécessairement achevée. Rien ne dit que la dérive s'interrompra à la circonférence de la planète, surtout si l'on l'aperçoit comme une sorte de fleuve-océan des temps post-humains. Rien ne dit que la dérive ne franchira pas la limite du globe. Cette remarque vient de m'être adressée par des géographes qui avaient aussi relevé mon usage récurrent du mot « limite ». Dans mon esprit, la limite esquisse franchie. C'est le terminus à quo de la transgressivité. De fait, si je fixais à la circonférence du globe une limite à la dérive, je concevrais à mon tour une limite. Et voilà quelque chose à quoi je devrais réfléchir. On m'a fait la remarque la semaine dernière. L'autre élément déclencheur m'a été offert par Irkrit Tiravanija, l'une des figures de proue de ce que l'on appelle, à tort ou à raison, l'art relationnel, qui, voici une dizaine d'années, avait fomenté une vive querelle entre Nicolas Bourriaud et Jacques Rancière. Bon, je ne développe pas, peu nous en chaud ici, à vrai dire. J'en reviens plutôt à ce que Tiravanija avait confié à Obrist. La chose suivante. Je crois qu'il vaudrait mieux parler de multiplication de la périphérie, car sous cet angle, vous réalisez que votre centre se situe en fait à l'extérieur. En un sens, la cage des méridiens propose une espèce de développement des visions planétaires que Brigitte Williams ou Irkrit Tiravanija ont exposé. Mon commentaire se nourrit aussi, évidemment, de la pensée archipélagique d'un Édouard Glissant, de la poésie d'un Derek Walcott, toujours dans les Caraïbes, Sainte-Lucie, auteur d'un texte qui n'est pas traduit en français et qui lui a valu le prix Nobel, Homéros, reprise de l'Iliade dans les Caraïbes, donc parmi d'autres qu'il serait évidemment trop long d'énumérer ici. Bien entendu, il se place dans le sillage de mes travaux géocritiques. Il y a là un nexus d'approche minoritaire de la culture, des arts et de la littérature. Il germine en marge du canon littéraire traditionnel une forme d'absolutisme qui a longtemps caractérisé la théorie littéraire occidentale et qui a nom universalisme. Comme j'aime à le répéter, l'un des chocs les plus salutaires de mon existence de chercheur aura été de dénicher, dans une librairie de Cambridge, Massachusetts, un essai intitulé « Chinese Theories of Fiction », le sous-titre est très intéressant, « A Non-Western Narrative System », qui date donc de 2006, signé Ming Dong Gu, qui est professeur à l'Université du Texas à Dallas. Car oui, et là, quand j'ai découvert ce livre, franchement, je suis resté perplexe aussi sur mes propres capacités à analyser mes réflexes, un peu lent. En effet, car la théorie littéraire est aussi ethnocentrée, ce que je n'avais pas compris il y a encore quelques courtes années, ce que l'on tend à ignorer. S'il est un système narratif non occidental, c'est donc qu'il est un système narratif occidental qui, se croyant universel, sans nécessairement l'être, tend à omettre l'épithète qui le localise. Donc théorie littéraire, point. Il va de soi que les arts visuels occupent, dans mon propos, une position qui est loin d'être périphérique, elle. Pour ma part, ils se sont imposés comme une évidence lorsque deux plasticiens français, Berger et Berger, deux frères, m'ont demandé, c'était au début de 2011, de rédiger un texte autour d'une de leurs œuvres, L'Astre Blanc, qui, chez moi, était devenu le globe blanc. Voilà. C'était un véritable défi. Ils avaient lu la géocritique. Et ben, les, voilà, une vingtaine de pages sur cette œuvre. J'aurais répondu que je n'étais absolument pas compétent, mais je me suis dit, on peut toujours essayer. Et heureusement, car ça a été, là encore, une véritable révélation. Globe blanc, un espace à reconstituer sur le mode utopique, un espace vierge à remplir comme une page par du texte ou une feuille par de l'image, ou les deux à la fois, comme cela se produit parfois, comme cela se produisait presque toujours dans l'art chinois. L'écriture autour de l'art, qui dans mon cas ne pouvait répercuter que des considérations d'ordre spatial et cartographique, du fait de mon manque complet d'expertise en la matière, a constitué une puissante source d'inspiration. C'est aussi de cela que rencontre la cage des Méridiens. Et je conclue, pour rester dans le temps qui m'est imparti. Pour conclure cette brève intervention, j'aimerais revenir sur le débat stimulant qui a suivi la conférence que j'ai présentée devant des géographes bordelais et palois la semaine dernière, alors même que j'avais commencé à écrire le texte que je vous soumets aujourd'hui. Il y avait été question de Patti Smith, chanteuse cette fois-ci, et de la dérive des continents. Le sujet peut surprendre, mais il trouve sa légitimation dans M-Train. Oui, c'est ça. M-Train, un récit que la chanteuse, qui est une splendide écrivaine et une photographe émérite, a publié en 2015. Donc, lors de cette conférence, j'ai beaucoup parlé de ce qu'elle écrivait. Elle-même a parlé de la dérive des continents, ce qui est très surprenant. Donc, il avait été question de la trajectoire centrifuge qu'adopte cette dérive des continents, fut-elle assez lente pour échapper à la mesure du temps humain. On s'aperçoit que deux mouvements antagonistes sont à l'œuvre. On s'aperçoit donc, d'une part, qu'il y a celui d'une globalisation, on pourrait qualifier d'agglutinante, qui relève de la présomption de l'homo economicus, moderne et contemporain. Il y a d'autre part celui d'une nouvelle forme d'humanisme placée sous le sceau alors d'un post-humanisme qui investit lui aussi la grande échelle planétaire, mais en allant dans le sens du décentrement systématique. Alors cette grande échelle est elle-même sujette à des ajustements, donc extrêmes. On retrouverait la méditation sur les dangers de l'anthropocène subsumée sous un individu qui continuerait de monopoliser le centre du croquis, comme le faisait l'homme de Vitruve, vous avez tous en tête Léonard de Vinci. À l'autre extrême, il y aurait, infiniment plus modeste et pourtant capital, l'apport de la théorie littéraire qui, en définitive, est une théorie sur le monde que nous habitons, car il doit bien y avoir un hors-texte, c'est à l'espérer tout du moins. C'est là-dessus que je conclue vraiment. Merci.
Merci Bertrand. En vous écoutant, je me disais que la question que je voulais vous poser... En vous écoutant, je me disais qu'une question que je pouvais vous poser, au fond, aurait pu également s'appliquer à Jean-Pierre Bertrand à propos de Harold Bloom. Je ne connaissais pas le Western Canon, effectivement, alors que l'angoisse de l'influence est un ouvrage qui a été traduit en français, qui est controversé. Si, l'angoisse de l'influence était... L'angoisse de l'influence a été traduite en français. Il y a eu un retard. The Western Canon, c'est l'angoisse de l'influence, c'est ce que je voulais savoir. Non, hein, je ne crois pas, je crois que c'est un autre livre. Je pense que c'est un autre livre. Et justement, la première question, dans ce monde globalisé, la circulation des traductions, qu'est-ce qui explique, selon vous, que The Western Canon n'ait pas été traduit et que l'angoisse de l'influence, certes, a été traduit avec beaucoup de retard en France et a suscité bien des réactions. Première question. Et deuxièmement, vous avez cité l'essai d'Emily Apter, Against World Literature, qui effectivement... Et donc, celui-là n'est pas traduit, qui est un ouvrage complexe et dont, effectivement, le titre est surtout une provocation. Et que pensez-vous de l'essai, celui-là, en français, et pas ambigu du tout, et très polémique, de Camille de Toledo contre la littérature monde ? Parce que...
Voilà, ça marche. Pour ce qui est de la première, voire des deux premières questions, pourrait ouvrir un débat absolument gigantesque, c'est l'éternelle question des relations entre, je ne dirais pas les deux côtés de l'Atlantique, parce qu'il y a un Atlantique qui s'étend au-delà de la France et qui traduit très largement. Pourquoi Bloom n'est pas traduit ? Pourquoi, de manière complémentaire, les ouvrages opposés au canon occidental sur le versant postcolonial ne l'ont pas été traduits ? C'est une très très bonne question.
dans le cas de Bloom, c'est extraordinaire parce qu'au-delà de, je sais pas, des relations qu'on peut entretenir entre France et États-Unis et tout, il y a un aspect qu'on a tendance à négliger, c'est l'aspect économique du marché éditorial. Ça a été un énorme best-seller, mais un best-seller, pas un ouvrage très lu, un best-seller qui était présent sur la liste des best-sellers. Ça aussi, ça mériterait d'être étudié de très très près. Comment un tel ouvrage peut, voilà, c'est quand même, ça reste un ouvrage universitaire. Très classique. Alors pourquoi c'est traduit en italien ? Pourquoi à l'époque j'étais obligé de le lire en italien puisque j'avais c'était avant le Google, je fais un peu de pub, les Amazon et autres, donc bon voilà. On prenait ce qu'on avait sous la main. J'avais sous la main la traduction italienne qui était pratiquement un best-seller également en Italie. Donc ça c'est une question qui est ouverte et que j'ai affrontée dans le livre. Assez longuement sans avoir de réponse, voire des réponses des réflexes nationalistes de part et d'autre, c'est pas un monopole français, de défense d'un prestige, d'une espèce de primat de la culture à un niveau international. Mais il serait très très intéressant de faire ça a été fait, mais pas tant que ça, des études comparatives entre les traductions en Europe d'un certain nombre d'ouvrages théoriques états-uniens, dont par exemple celui de Bloom et dont tous les ouvrages postcoloniaux. Je répète, Omi Baba, qui est une autre star, The Location of Culture, notamment, a été traduit en 2007, donc très tardivement aussi. C'est des bouquins qui sont sortis au début des années 90.
Voilà. Et Camille de Toledo, est-ce que vous en parlez de cet
essai? Oui, j'en parle, alors pas de celui-ci, mais d'un autre, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. On a échangé des livres. Il y a aussi Emily Apter. Si j'insiste une seconde sur le cas d'Emily Apter, c'est parce qu'elle pourrait servir un petit peu de transition entre les deux noms, dans la mesure où elle parle justement des questions de traduction à un niveau planétaire, de la circulation et du droit aussi. Alors, ce n'est pas le cas des relations États-Unis-France. Là, on a deux géants culturels. Mais l'impact du processus de traduction sur des littératures nationales dans un cadre de World Literature et l'impact en retour sur le pays où le livre a été écrit. Ce à quoi on pense très très rarement. Elle parle d'une espèce de sphère d'intimité de la culture où le livre a été écrit par rapport au pays où le livre a été traduit. C'est sûr, quand on arrive d'un petit pays et qu'on est traduit en anglais, qu'on est diffusé sur le marché américain, il y a automatiquement également un impact considérable sur le marché du petit pays où on a écrit. Voilà, c'est un élément de plus à verser au dossier de la traduction et de l'impact, des difficultés, etc., de la traduction à un niveau global. Pour ce qui est du livre de... Alors, pour être honnête, je n'ai pas encore lu, je vais le lire. Oui, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, je crois.
Contre la littérature monde, il y a quelques années,
je crois. Oui,
le contre, oui, qui était une réaction au Festival des étonnants voyageurs. Et ça, c'est une attaque au bazooka.
Je l'ai lu.
C'est une attaque au bazooka, oui.
Oui, parce qu'il s'en prenait, alors comme moi d'ailleurs, au manifeste encore de Landgrasse 2007, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi 2007... Où était sorti le manifeste dans Le Monde sur la littérature monde. Alors, dans le manifeste du Monde, littérature monde en français, et juste après, deux mois plus tard, Gallimard a publié des textes, cette fois-ci des signataires, mais ça ne s'appelait plus, c'était plus intitulé la littérature monde en français, mais la littérature monde, point. Enfin, le en français avait disparu, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, mais pose également les questions de la littérature monde. Bon, là, c'est un autre vaste débat. On pourrait comparer littérature monde, c'est-à-dire la tentative francophone, et world literature. On pourrait estimer que la... Et moi-même, j'ai changé d'idée parce que je me suis rendu compte de deux, trois choses. J'étais relativement, pour ainsi dire, sarcastique, surtout dans un premier manuscrit que j'ai un petit peu édulcoré pour l'édition, sur le texte de 2007, donc sur la littérature monde, parce que je considérais que, notamment, que réfléchir à une littérature monde en français me gênait un peu. Pourquoi en français? Et deuxièmement, ça partait d'une observation que je trouvais très, très parisienne, si je puis me permettre, c'est-à-dire les prix littéraires. Il y avait quelques prix littéraires 2006, même tous les prix littéraires 2006, qui étaient dit francophone, c'est-à-dire pas français. Ça, encore, c'est un problème lié au choix du terme francophonie, hein, classique. Bon, donc voilà. J'ai revu un petit peu mon jugement. J'ai également, je me suis posé des questions sur la world literature, puisqu'on est dans une phase de globalisation. Je pensais que la world literature reflétait l'état de la littérature internationale aujourd'hui. Mais en fait, la world literature elle-même, on pourrait dire world literature in English. C'est ça que j'avais pas compris au départ, même au moment d'écrire le livre, pour être tout à fait honnête. S'il y a une littérature monde en français, il y a également une world literature in English, parce que quand on ouvre les ouvrages, vous savez que les ouvrages théoriques américains sont souvent en deux parties. Il y a une première partie plus ou moins longue de pure théorie, et une deuxième partie qui est consacrée à l'application de la théorie à un corpus. Voilà, donc quand on consulte la deuxième partie de ces ouvrages, on se rend compte que le corpus est in English. C'est world, certes, mais c'est des auteurs indiens, sud-africains, pakistanais, qui d'ailleurs écrivent en anglais, qui pourraient aussi écrire en hindi ou urdu ou d'autres langues, pour tout dire. Donc il y a un choix de corpus qui est également très in English, ce que du côté américain, on néglige un petit peu.
Encore une question pour Bertrand Vessal, oui.